Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné numéro 26? Les 10 attributs d'un citoyen du royaume numéro 2. Brian Kozurek. Pasteur. 15 mars 2015. Mercredi soir, nous avons parlé des 10 attributs d'un citoyen du royaume, et nous sommes allés aussi loin que 5 attributs environ. Alors ce matin, je voudrais prendre quelques minutes pour passer en revue les 5 premiers attributs avant que nous n'ayons eu passion au deuxième groupe de 5 autres attributs. Mais lisons encore au chapitre 11 des Hébreux. Hébreux 11h13. Tous ceux-là sont morts dans la foi, c'est-à-dire la révélation, sans avoir reçu les promesses, mais les ayant vus de loin, dans le futur, et en étaient persuadés, en étaient certains, et les avaient embrassés, et avaient confessé qu'ils étaient étrangers, c'est-à-dire à dire d'ailleurs, d'une autre nation, et pèlerins, des résidents, des personnes vivant dans un autre pays que leur pays d'origine, sur la terre. 14 Car ceux qui disent de telles choses déclarent clairement qu'ils cherchent un pays. 15 Et assurément, s'ils s'étaient souvenus de ce pays d'où ils étaient sortis, ils auraient pu avoir l'occasion d'y retourner. 16 Mais maintenant ils désirent un meilleur pays, c'est-à-dire un céleste. C'est-à-dire pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. L'apôtre Paul a écrit dans les Hébreux que nous sommes d'ailleurs des résidents, nous vivons dans un pays différent de notre pays d'origine, alors que nous n'ayons mis, faisant que traverser cet endroit appelé la terre. Et alors il a dit, 15 et assurément, s'ils s'étaient souvenus de ce pays d'où ils étaient sortis, ils auraient pu avoir l'occasion d'y retourner. 16 Mais maintenant ils désirent un meilleur pays, c'est-à-dire un pays céleste. C'est-à-dire pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Par conséquent, nous voyons l'importance de garder notre attention sur les promesses de Dieu. Car nous sommes avertis, s'ils s'étaient souvenus, soucieux, préoccupés, de ce pays d'où ils étaient sortis, ils auraient pu avoir l'occasion d'y retourner. Ce matin nous lirons encore au paragraphe 141 du sermon de frère Branham, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, et ce sera le numéro 25 de notre série. 141. Alors, qu'est-ce que vous êtes? Pour le monde? Un étranger. Je sais qu'il est tard, mais il n'est jamais trop tard pour ceci. Frère Branham tape une fois dans ses mains. Tirer des accents aigus, un étranger. Oh! Nous sommes pèlerins et étrangers ici. Nous cherchons une ville à venir. Le bateau de sauvetage vient bientôt. Rassemblez ces joyaux à la maison. 143 Vous êtes d'ailleurs, et vous êtes un étranger. Vous faites des choses étranges, différentes de ce que vous faisiez avant. Vous n'agissez plus comme vous agissiez avant. Les gens, le Saint-Esprit, quand il vient sur vous, et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ignorez les choses du monde. Vous ignorez les choses qui vous empêcheraient d'avancer. Vous ignorez ça. Alors, vous devenez une créature aux manières bizarres. Le vilain petit canard. Pour eux, l'aiglon qui était éclos dans la couvée de la poule, comme j'ai prêché, et quand l'aigle éveille sa couvée. Pour eux, vous êtes un drôle de créature. Mais, oh, là là, vous montez le chemin du roi. Amen. Oh, c'est-à-dire un chemin qui mène au ciel. Et je monte le chemin du roi. Ils disent, regardez cet exalté, ce vilain petit canard. Voilà ce prédicateur exalté. 146 Quand je suis allé à Rome, j'ai remarqué qu'ils avaient tous un esprit romain. Quand je suis allé en Grèce, ils avaient tous un esprit grec. Je suis allé en Angleterre, ils avaient tous un esprit anglais. Quand vous voyagez, vous trouvez. Et puis vous trouvez l'esprit américain. Il est horrible. 147 quand je suis allé aux catacombes de Saint-Ange à Rome. Ils avaient accroché un écriteau. Là, américaine. Veuillez vous habiller. Pour honorer les morts. L'esprit américain. Regardez-les descendre de l'avion. Avec ses petits vêtements sur elle. Et tout le monde se met à les regarder. Et voici Miss Amérique qui arrive. C'est à l'esprit américain. Vous voyez d'où elle vient? Tout endimanché. Mes amis. Avec une espèce de caniche tout morveux qu'elle traîne derrière elle. C'est Esther ça. Oh. Oui. Elle Esther. Elle. Elle Esther l'Amérique. Miss Amérique. Elle s'avance. Vous savez. En se pavanant. Comme ça. Pourquoi? Elle a l'esprit américain. Frère Branham donne 6 coups sur la chair. Tirène des accents aigus. Mais Jésus a dit. Il a témoigné contre ça ce jour-là. Il a dit, vous êtes de cette terre ici-bas. Moi, je suis d'en haut. Et si vous avez l'esprit de Christ en vous, vous êtes d'en haut. Alors vous êtes un étranger ici. 148 mais vous avez la nature de l'endroit d'où vous venez. Voilà ce que j'essaie de dire. Un Romain qui vient ici, il se gratte la tête. Et un Allemand qui vient ici, l'Américain qui va là-bas. Pourquoi? Vous avez les esprits de ces pays d'où vous venez. C'est ça qui fait que nous sommes tellement différents du monde. Vous êtes d'en haut. Vous êtes né. Vous êtes un citoyen d'un autre royaume. Vous le croyez? L'Assemblée dit, Amen. Tirène des accents aigus, voilà à quoi sert le Saint-Esprit. À faire de vous un citoyen du royaume de Dieu. 149 alors. Si vous êtes un citoyen du royaume de Dieu, comment est-ce ce qu'il vous fait agir? Comme Dieu le fait dans son royaume. Alors, qu'est-ce que Dieu fait dans son royaume? 1. C'est la sainteté. 2. La justice. 3. Des pensées pures. 4. Un esprit pur. 5. La puissance et 6. L'amour. 7. D'aller vers les perdus. 8. De guérir les malades. 9. D'accomplir des miracles. 10. De faire de grandes choses. Alors, pour le monde, vous avez l'air d'un fou, et ils disent, ces gars-là sont dérangés de la tête. Voyez? Mais vous êtes un citoyen du royaume. Remarquez, frère Branham nous donne ici 10 choses, et le nombre 10 dans la Bible signifie la fin d'un cycle, ainsi que le commencement d'un autre cycle. 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9 Puis le cycle finit et se répète. 11, etc. Comme je l'ai dit mercredi soir, le nombre 10 est utilisé dans toute la Bible pour représenter la fin d'un cycle. Comme par exemple, Dieu achevant le cycle de l'homme dans la gentille diluvien avec Noé. Noé était la 10e génération depuis Adam, qui amène avec lui une nouvelle alliance de Dieu. Et Abraham était la 10e génération depuis Noé amenant avec lui une nouvelle alliance inconditionnelle de Dieu. Il y a les 10 commandements, et les 10 espions que Moïse a envoyés espionner le pays. Les 10 rangées de 10 talents d'argent qui composaient la mortaise ou base du tabernacle dans le désert. Les 10 mystères un 10e. Cela représente tout ce qui est dû à Dieu, les 10 plaies en Égypte, etc. Par conséquent, nous voyons que le nombre 10 représente une conclusion, et se réfère au fait d'en arriver à un cycle complet. Jésus a aussi parlé de plusieurs paraboles où 10 était le nombre clé. Les 10 vierges qui représentent la fin du cycle des vierges. Les 10 talents. Les 10 pièces d'argent du diadème de la femme, l'argent représentant la rédemption, et donc les 10 pièces d'argent dans la couronne de la femme représentaient la pleine rédemption, etc. Mais ce matin nous examinerons encore un autre ensemble de 10. Et ce sont les 10 attributs du citoyen de la ville céleste auxquels frère Branham se réfère ici au paragraphe 148 dans son sermon. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. À faire de vous un citoyen du royaume de Dieu. 149 alors. Si vous êtes un citoyen du royaume de Dieu, comment est-ce ce qu'il vous fait agir? Comme Dieu le fait dans son royaume. Alors, qu'est-ce ce que Dieu fait dans son royaume? 1. C'est la sainteté. 2. La justice. 3. Des pensées pures. 4. Un esprit pur. 5. La puissance et 6. L'amour. 7. D'aller vers les perdus. 8. De guérir les malades. 9. D'accomplir des miracles. 10. De faire de grandes choses. Alors, pour le monde, vous avez l'air d'un fou. Et ils disent, ces gars-là sont dérangés de la tête. Voyez? Mais vous êtes un citoyen du royaume. Ainsi commençons à voir ces attributs d'un citoyen du royaume de Dieu l'un après l'autre et je vais expédier les 5 premiers, parce que nous les avons approfondis mercredi soir. 1. La sainteté, le premier attribut mentionné ici. C'est la sainteté car la Bible nous enseigne. Maintenant, le premier de ces attributs, que Dieu exprime dans son royaume, selon frère Branham, c'est la sainteté. Et ainsi quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous recevons un esprit de sainteté. Et c'est pourquoi la sainteté est énumérée comme le premier attribut, c'est que sans elle, vous ne pouvez même pas voir ou comprendre Dieu. Hébreux 12h14, poursuivez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle nul n'aimé verra le Seigneur, Darby. Et remarquez que c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit dans Hébreux 12h10 car cela disciplinait pendant peu de jours, selon qu'il le trouvait bon. Mais celui-ci nous discipline, pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu veut que nous soyons participants de sa sainteté. Ainsi, ce n'est pas notre sainteté, parce que nous n'en avons pas, mais c'est par le fait qu'il nous donne de son esprit, qui est appelé le Saint-Esprit, en sorte que nous puissions devenir participants de sa sainteté. Et cette sainteté vient en vous par la naissance, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, mais à travers les épreuves et les souffrances, Dieu nous montre comment surmonter la nature de notre chair afin que nous puissions arriver à une forme plus élevée de sainteté. Que Paul appelle le perfectionnement ou l'achèvement de la sainteté dans 2 Corinthiens 7, ayant donc ses promesses. Bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Darby, vous ne pouvez pas perfectionner ou achever la sainteté sans avoir la pensée de Dieu, et donc les pensées de Dieu vivant votre vie pour vous. Comme nous voyons dans 2 Corinthiens 10, 5 nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez, la sainteté vient réellement de la justice qui est la sagesse juste ou le fait d'avoir une sagesse fondée sur une pensée juste. Luc 1, 75 en sainteté en justice devant lui, tous nos jours. Par conséquent, vous ne pouvez pas séparer la sainteté de la justice. Et la justice était le numéro 2 sur la liste de Fr. Branham. Esaïe 64. 6 et tous, nous sommes devenus comme une chose impure, et toutes nos justices, nos justes sagesses, nos pensées que nous pensons être justes, comme un vêtement souillé, et nous sommes tous fanés comme une feuille, et nos iniquités, comme le vent, nous emportent. Ainsi Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 4, 7 car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. 1 Thessaloniciens 3h13 pour affermir vos cœurs sans reproche en sainteté devant notre Dieu et Père, en la venue de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Romains 6h22. Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Après nous avons examiné, 2, la justice, car frère Branham dit, 149 alors, si vous êtes un citoyen du royaume de Dieu, comment est-ce ce qu'il vous fait agir? Comme Dieu le fait dans son royaume. Alors, qu'est-ce que Dieu fait dans son royaume? 1. C'est la sainteté. 2. La justice. La justice aligne vos pensées sur les pensées de Dieu, car seules ses pensées sont justes. L'apôtre Paul dit dans Romains 6h19. Maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Laissez encore moi lire Esaïe 55, 8 car mes pensées n'émis sont pas vos pensées, et vos voix n'émis sont pas mes voix. Dit l'Éternel, 9 car, comme, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Éphésiens 4h24 et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Parce que vous, Néhémie, pouvez pas avoir la vraie sainteté sans avoir la vérité, et la vérité est la sagesse juste de Dieu. Vous voyez? Vous, Néhémie, pouvez pas séparer la vérité et la justice, car comment pourriez-vous avoir une sagesse juste qui n'estère pas tout d'abord la vérité? Et c'est pourquoi le Seigneur vit dans la vérité et la justice s'estère, parce qu'il estère la vérité. Jean 14, 6 Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul Néhémie vient au Père que par moi. Et Dieu n'acceptera pas ceux qui invoquent son nom sans mettre en pratique la vérité et la justice. C'est pourquoi sans la nouvelle naissance et le fait de recevoir ou d'hériter de la nature même de Dieu, vous Néhémie pouvez pas prouver votre citoyenneté céleste sans vivre dans la vraie sainteté, qui Néhémie peut venir que de sa vérité et de sa justice. Et ainsi vous Néhémie vivrez jamais dans sa ville sainte. Psaume 15. 1-2, psaume de David. Éternel. Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera en ta montagne sainte? Il parle de la ville construite sur la colline sainte, ainsi qui peut vivre là et être ainsi citoyen de ce royaume? Celui qui marche dans l'intégrité, et qui fait ce qui est juste, et qui parle la vérité de son cœur, et cela nous conduit à l'attribut ou aux caractéristiques numéro 3 que William Branham a dit être la pureté de pensée ou des pensées pures. Et nous n'aimons pouvons pas avoir des pensées pures à moins que nous ayons les pensées de Dieu. Jacques 3h17 La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Ainsi nous regardons la sagesse de Dieu, la sagesse qui est d'en haut, qui est premièrement pure. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit que si nous devons nous purifier, ce doit être comme Dieu est pur, et il est la parole. 1 Jean 3, 3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Et ainsi l'apôtre Paul nous avertit dans Philippiens 4, 8 au reste. Frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En d'autres termes, Paul nous avertit de Néhémie penser que les pensées qui ont leur source dans la parole de Dieu et remarquer combien étroitement sont liés ensemble les attributs numéro 3 et numéro 4 que frère Branham nous présente. Premièrement des pensées pures, puis une pureté d'esprit. Ainsi la tribu numéro 4, Esther, un esprit pur. Titus 1:15, tout Esther pur pour ceux qui sont purs. Mais rien Esther pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Jésus dit dans Matthieu 5, 8 heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et après avoir reçu un esprit pur par le lavage de l'eau par la parole, l'apôtre Pierre nous ordonne dans 2 Pierre 3, 1 je vous écris déjà, bien-aimés, cette seconde lettre, et, dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure intelligence, esprit pur, en rappelant ces choses à votre mémoire. Darby, et Paul nous dit qu'avec notre esprit pur nous sommes capables de conserver le mystère de la foi. 1 Timothée 3, 9 conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Mais nos esprits Néhémie sont purs que comme ils sont remplis de la parole de Dieu. Tout mélange apporte avec lui la fourberie et la tromperie. Proverbe 15:26 Les pensées du méchant sont une abomination pour le Seigneur, mais les paroles de celui qui est pur sont agréables. 1 Timothée 1:5 Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et ce nous conduit au prochain attribut de notre citoyenneté, Esther 5, la puissance Romains 1, 4 est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Remarquez que la puissance de Jésus était selon l'Esprit de sainteté. Et la puissance, indépendamment d'avoir le bon caractère, Esther satanique. En fait, c'est ce que frère Branham nous a enseigné dans le livre des sept âges de l'Église. Exposé des sept âges de l'Église chapitre 4 L'âge de l'Église de Smyrne 117-1 Pourquoi n'intervient-il pas? La raison se trouve dans Romains 1:17-18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps prisonnier mis sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Si nous n'aimons souffrons pas avec lui, nous n'aimons pourrons pas régner avec lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en Esther qu'on aimait peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère Esther une victoire, pas un don. Un homme qui n'a pas le caractère Néhémie peut pas régner, car la puissance sans le caractère, c'est Esther satanique. Mais la puissance avec le caractère Esther apte à régner. Et, puisqu'il veut que nous partagions même son trône, tout comme lui est vaincu et Esther assis sur le trône de son père, alors, nous aussi, nous devons vaincre pour nous asseoir avec lui. Et les quelques souffrances temporaires que nous endurons maintenant Néhémie sont pas dignes d'être comparées à la formidable gloire qui sera révélée en nous quand il viendra. Oh! Quels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer dans son royaume par beaucoup de tribulations. Maintenant, je veux que vous remarquiez comment ces 10 caractéristiques de la citoyenneté du ciel découlent l'un de l'autre. Premièrement la sainteté. Parce que sans elle vous Néhémie pouvez pas voir Dieu. Et cette sainteté Néhémie peut venir que par le fait d'avoir le Saint-Esprit de Dieu qui vit dans votre vie. Puis nous voyons comment la justice ou d'avoir une juste sagesse est essentielle pour vivre une vie sainte. Et comment le seul fait d'avoir la justice de Dieu peut produire une vraie sainteté. Et de cette vraie sainteté, qui est en fonction de la juste sagesse, se produit des pensées pures qui viennent d'un esprit épuré. Et c'est seulement lorsque ces 4 attributs sont entrés dans votre nature et se sont présentés dans votre caractère, que vous êtes apte à manifester la puissance d'une vie impérissable, qui est la vie éternelle, et ainsi la puissance d'une vie éternelle, car il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle et s'astère la vie de Dieu. Et tout cela vient de la parole de Dieu, car il astère la parole. Hébreux 7 or s'est institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. De Pierre 1, 3 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. À Pierre 1, 5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 2 Timothée 1, 7 car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et vous avez besoin de la puissance de Christ dans notre vie pour accomplir la foi de Christ. 2 Thessaloniciens 1 11 c'est pour cela que nous prions aussi toujours pour vous. Que notre Dieu vous juge digne de l'appel, et qu'il accomplisse tout le bon plaisir de sa bonté et l'œuvre de la foi en puissance. Darby, et cette puissance s'appelle la puissance de sa résurrection, comme nous voyons dans Philippiens 3 heures 10 afin de connaître Christ. Et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir. 1 Guide 62-10 14-62. Mais quand il s'agit de connaître la sainteté, et la justice, et la puissance de Dieu, et la façon dont le Saint-Esprit agit, et ce qu'il fait, vous faites mieux de rester derrière la parole. Le guide. Voyez, vous n'avez encore jamais passé par ce chemin. 65. Jésus a dit, ceux qui auront passé par ce chemin, voici les signes qui les accompagneront. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Qu'ils saisissent des serpents ou boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal à qui. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. La plupart d'entre eux refusent cela, le nient, déclarent que ce n'est même pas inspiré. Ils n'y suivent pas le guide. Ils suivent un credo d'homme. Vous faites mieux de rester derrière la parole. Parce que vous n'avez pas passé par ce chemin. Vous savez. Et ainsi nous voyons que Jean 14:12 et Marc 16 sont si importants comme les identifiants de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et de la puissance. Car l'Évangile estère la puissance de Dieu, et s'il en estère ainsi alors ceux qui sont des vrais croyants de l'Évangile seront également remplis de cette même puissance de résurrection. Je n'ai mis ce pas pour vous. Mais je vois Jean 14:12 comme un vrai tournant que Dieu a utilisé pour secouer ceux qui se contentent d'avoir une compréhension ou une théologie mentale de la divinité et de la présence. Mais pour ceux qui avancent et qui marchent véritablement dans la lumière comme Dieu lui-même marche dans la lumière, nous avons entamé la puissance d'une vie impérissable, la puissance de la vie éternelle, la puissance de la résurrection. Dans Esaïe 29. 13 nous avons lu, et le Seigneur dit, parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et qu'il m'honore de leurs lèvres, et que leur cœur est éloigné de moi, et que leur crainte de moi est un commandement de m'enseigner. La traduction The Voice, la voix, dit, ces gens pensent qu'ils peuvent s'approcher de moi en disant de bonnes choses, en m'honorant de leurs lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Le culte qu'ils me rendent consiste en des traditions faites de mains d'hommes en fonction de leur credo et enseignement, qu'ils ont appris par répétition, mais ce n'est qu'une imitation inutile. Vous voyez, Éphésiens 4 nous dit que nous devons tous parvenir à l'unité dans la révélation de Jésus-Christ et à une connaissance empirique qui s'appuie seulement sur l'expérience du Fils de Dieu. C'est alors que nous grandirons en lui. Et Paul nous dit également dans Romains 8:11 voice 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts vit à l'intérieur de vous, alors vous pouvez être sûr que celui qui l'a ressuscité projettera la lumière de la vie dans vos corps mortels par la puissance qui donne la vie de l'esprit qui a élu domicile en vous. Remarquez, le même esprit la même puissance. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vous ressuscitera de vivre parmi les morts, et vous vivifiera par sa vie, qui donne la puissance de vivre par sa vie qui donne la puissance. Jusqu'ici, nous avons vu frère Branham mentionner la sainteté, puis la justice, puis des pensées pures et la pureté de l'esprit, et maintenant il parle de la puissance. Car à quoi bon tout ceci si Dieu ne vous donne pas également la puissance qui va avec pour la vivre? C'est bien de le savoir, mais ça fait mal à qui a l'estomac de savoir qu'il veut que nous menions une vie sainte, de vivre selon sa juste sagesse et d'être purs dans nos pensées et dans notre esprit. Mais si nous ne recevons pas la puissance pour accomplir tout ce que nous savons, nous devenons encore plus malheureux que si nous ne savions pas. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Mais ce matin, je veux que vous sachiez que nous avons aussi reçu la puissance de la vie impérissable. La puissance pour vaincre tout comme il a vaincu. Et Paul nous dit dans Romains 9:16 ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Jean 1:12 mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi nous avons déjà reçu cette puissance. Puis Jean nous dit lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ainsi nous parlons d'une puissance qui nous est donnée en sorte que nous n'aimions nous excitions pas pour l'atteindre, ni n'aimions le produisions par nous-mêmes, mais elle nous est simplement donnée en naissant de Dieu. Par conséquent, un croyant sans Jean 14:12 est une église sans puissance. Maintenant, la chose est de savoir quoi faire avec cette puissance. Parce que nous avons déjà lu dans le livre des âges de l'église que la puissance, indépendamment du caractère, c'est satanique. Et puisqu'il y a seulement un caractère qui a prouvé être digne d'utiliser cette puissance et 100% conformément à la volonté du Père, alors c'est le dessein de Dieu que chaque enfant de Dieu soit rempli du caractère même du Fils premier-né afin d'utiliser cette puissance d'une vie impérissable selon le Père. Et c'est pourquoi William Branham énumère successivement les 5 derniers attributs de Dieu que manifestera également le citoyen du royaume. Après nous avoir donné les 5 premiers, voilà à quoi sert le Saint-Esprit, à faire de vous un citoyen du royaume de Dieu. 149 Alors, si vous êtes un citoyen du royaume de Dieu, comment est-ce ce qu'il vous fait agir? Comme Dieu le fait dans son royaume. Alors, qu'est-ce ce que Dieu fait dans son royaume? 1. C'est la sainteté. 2. La justice. 3. Des pensées pures. 4. Un esprit pur. 5. La puissance. Maintenant, le frère Branham ajoute les suivants. Et 6. L'amour. 7. D'aller vers les perdus. 8. De guérir les malades. 9. D'accomplir des miracles. 10. De faire de grandes choses. Alors, pour le monde, vous avez l'air d'un fou. Et ils disent, ces gars-là sont dérangés de la tête. Voyez? Mais vous êtes un citoyen du royaume. En sorte que le monde ennemi comprendra jamais pourquoi vous prenez de l'argent que vous pourriez utiliser pour vous-même et votre famille et aider les autres avec. C'est simplement contraire à leur pensée. Mais quant à amasser des trésors au ciel, ils n'y savent rien. Jésus nous a avertis dans Matthieu 6:19, Luc 12:21, Marc 10:21 où il a dit, n'y vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Oh! Alors vous dites, pas de problème, je garderai le mien à la banque et personne alors n'y pourra l'avoir. Néhémie, savez-vous pas que les plus grands voleurs sont vos gouvernements? Néhémie, savez-vous pas qu'au sommet du G20 de l'an dernier, les gouvernements de ce monde se sont déjà mis d'accord sur un plan universel, que le prochain renflouement de la banque Néhémie se fera pas avec l'argent du gouvernement, mais avec celui des déposants? Néhémie, savez-vous pas, selon les lois financières, que vous, en tant que déposant, êtes considéré comme un créancier sans garantie? Et ça signifie que vous êtes sans garantie. L'argent que vous déposez, c'est aux banques de les utiliser à leur discrétion. Et s'ils faillissent à leur engagement, ils doivent d'abord rembourser tous les créanciers garantis. Mais le déposant est sans garantie, ce qui signifie si votre argent est à la banque, vous pourriez tout aussi bien de faire une croix là-dessus. Vous voyez? D'abord ils montent un plan, pour s'assurer que vous Néhémie, gardez pas votre argent à la maison. Ainsi ils ont créé une guerre contre le terrorisme. Puis toute personne qu'on trouve avec des fonds qui excédent $10 000 américains à la maison, cette somme peut être volée par le gouvernement local, de l'État ou fédéral, au nom du blanchiment d'argent, du trafic de drogue, ou de soupçons d'aider le terrorisme. Lorsque Lehman Brothers, qui était une banque d'affaires, a failli à son engagement, tous les déposants, qui étaient des créanciers sans garantie, n'ont eu que $800 en guise de remboursement. Ainsi quand Jésus nous a averti que les voleurs perceraient et voleraient, il parlait des gouvernements au temps de la fin. Il y avait des gens qui cachaient le leur dans des matelas et des murs de maison, mais maintenant chaque billet a des éléments RFID à l'intérieur et ils peuvent venir avec des dispositifs pour lire ce qui est dans les murs, les planchers et les matelas. Ils peuvent le trouver comme ils pourraient trouver des pièces de monnaie avec un détecteur de métaux. La compagnie détentrice de la Bank of America, qui a commencé comme la Bank of Italy et a changé son nom par la Bank of America, serait la Banque du Vatican. L'an dernier, elle détenait près de $75 trillions en dérivés à la fin de juin 2014, qui rivalise avec le dépôt de preneur d'entité de JP Morgan, JP Morgan Chase Bank Naum, dont le plus important actionnaire est aussi le Vatican, qui possède 99% des $79 trillions d'entreprises basées à New York de dérivés notionnels, tels que le présentent les données de Locke. Sester $75 trillions et $79 trillions en dérivés. Ces 200 mégabanques détiennent plus en dérivés chacun que le PIB global entier à $70 trillions. Donc voilà votre Vatican qui manipule les banques pour garder tous ces dérivés, qui n'estèrent rien d'autre que des dettes de jeu avec l'argent des déposants. Et ils ont tellement laissé s'accumuler la dette qu'ils prendront juste tout l'argent des déposants et ils sont soutenus par la loi en agissant ainsi. Il n'est pas étonnant que la Bible dise dans Apocalypse 13, 4, ils adorèrent le dragon, Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête. Pour moi, c'est Apocalypse au chapitre 17 en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Regardez. Tout est fini. Vous feriez mieux d'être prêt à retourner à la maison, au royaume de votre père, parce que vous Néhémie, pourriez plus avoir d'autres maisons où aller. Vous avez une hypothèque? La banque possède votre maison. Qui est la banque? La bête. Vous n'avez pas d'hypothèque? Eh bien, vous payez des impôts fonciers bizarres. Qui possède la dette du gouvernement? La bête. Et le débiteur est l'esclave du prêteur? Ainsi, qui votre gouvernement sert? La bête. Maintenant, revenons à notre sujet. Nous parlons de la puissance de vivre une vie impérissable. La puissance de Dieu. L'évangile de Christ. Romains 1:16 et en Néhémie, doit pas seulement en parler. L'évangile nous a été donné afin que nous puissions vivre et refléter le caractère même de Christ. Romains 8:12-16. Ainsi donc, frères, nous n'y sommes point redevables à la chair. Pour vivre selon la chair. 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba. Père. 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ainsi nous voyons qu'on nous a donné la puissance dans 2 Timothée 1, 7 car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Remarquez, quand Dieu nous a donné son esprit, il a promis que son esprit témoignerait à notre esprit, et son esprit nous donne la puissance et la capacité d'aimer et d'avoir un esprit saint. Maintenant, les 5 derniers attributs du citoyen du royaume, frère Branham dit, sont, et 6. L'amour. 7. D'aller vers les perdus. 8. De guérir les malades. 9. D'accomplir des miracles. 10. De faire de grandes choses. Ainsi nous voulons voir l'amour pendant un moment. Laissez-moi donc commencer en revenant à Jean 14h12 pendant un moment. Vous savez tous que quand j'enseigne sur Jean 14h12, je n'ai jamais cru un seul instant que nous devons faire comme font les gens de la dernière pluie, et qui estèrent de désirer ces grands et puissants miracles qui viendront lorsque l'évangile retourne aux Juifs. Mais je vous ai plutôt enseigné en vous montrant des centaines de citations de notre prophète qui nous prouvent que Jean 14h12 parle de la vie de Christ vécue dans les croyants, se remplit de son esprit. Car si vous êtes rempli de son esprit alors la vie qu'il a vécue, les choses dont il a parlé, la manière dont il a marché, la manière dont il a mené sa vie, vous ferez la même chose. Et Esther également Romains 8h16 l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, et ainsi vous êtes héritier avec Christ. Après tout, frère Branham a dit dans son sermon, la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes 57:06-38. Jésus a dit, si je n'ai mis fait pas les œuvres de Dieu, alors Néhémie me croyait pas, mais il a fait les œuvres de Dieu et il a dit, je n'ai mis fait rien de moi-même, jusqu'à ce que je voie le Père le faire d'abord. Quoique je voie le Père faire, alors le Fils fait de même. Il a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais il les fera également. C'était l'Église. Christ a laissé ceci afin que son Église ait son esprit. Et l'Esprit de Christ accomplira. Et agira. Et vivra comme Christ. Amen. Comment pouvons-nous nous séparer? Quand Christ a enseigné l'amour fraternel, par ceci tous les hommes sauront que vous êtes mon Église quand vous avez de l'amour les uns pour les autres. Maintenant, cela nous lie à la puissance de montrer de l'amour comme frère Branham nous suggère que le prochain attribut d'un citoyen de royaume, c'est l'amour. Quand est-ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 8h11 l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit nous entendons les paroles de frère Branham dans son sermon, les œuvres que je fais rendent témoigne de moi 51:04-16 maintenant. Je veux parler juste un instant, ou juste attirer votre attention sur ces quelques paroles que le Seigneur a dites. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Les choses que je fais, ce que je dis, c'est ce qui rend témoignage de moi. Et c'est ce qui rend témoignage de chaque personne. Vous savez, je préférerais que vous me viviez une prédication plutôt que de m'en prêcher une. Cela sera une meilleure preuve que vous êtes chrétien. N'est-ce pas vrai? Vivre un sermon. Et ce que nous sommes? C'est ce que nous vivons. C'est ce que nous faisons. Nos actions montrent ce que nous sommes. Et si nous disons que nous avons la foi, et qu'ensuite nous ayons peur de montrer notre talent, de déclarer notre foi et de la mettre au travail. Alors notre foi Néhémie nous fait aucun bien. N'est-ce pas? La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. De même que le corps sans esprit est mort. C'est ce que nous avons lu dans 2 Pierre 1, 3 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 4 Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et j'aime ce que The Voice Translation, la traduction La Voix, dit. En note de bas de page, Dieu a fait le premier pas. Celle de nous sauver de ce monde corrompu. Il nous a accordé sa puissance. Il nous a révélé la vraie connaissance. Et il nous a fait des grandes promesses. Il a fait tout ceci pour une seule raison, afin que nous soyons participants de sa propre nature et reflétions sa propre vie. Mais nous n'y sommes pas des observateurs passifs des actions salutaires de Dieu. Nous devons recevoir sa grâce. Nous devons grandir en connaissance et le rejoindre dans cette œuvre rédemptrice. Nous voudrions voir Jésus 57-0226p21 mais maintenant, alors qu'il est ici œuvrant avec son Église dans la forme de l'Esprit. Alors si son Esprit est avec nous, il agira juste exactement comme il a agi quand il était ici sur terre. Il vous fera agir de la même manière. Parce que ce n'est plus votre esprit. C'est son esprit en vous. L'esprit de Christ en vous. Les choses que je. Celui qui croit en moi, Saint Jean 14h12. Les œuvres que je fais. Vous les ferez également voyez. Nous ferons les mêmes choses. Penserons les mêmes pensées. Vivrons le même type de vie. Si l'esprit de Dieu est en vous. Il vous fera vivre comme Christ. Comme Christ. Alors vous devenez une épître vivante, lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant sa lumière à partir de vous. Comme Dieu était en Christ réconciliant le monde à lui-même, reflétant Dieu à partir de son propre corps. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique du Père l'a déclaré. Dieu était en Christ. Et ce qu'était l'attitude de Christ, était l'attitude de Dieu, parce que les deux travaillaient ensemble, l'esprit et la chair unis ensemble. Vous voyez, il ne suffit pas de comprendre la théologie du Père et du Fils. Il ne suffit pas de comprendre comment Dieu était dans son Fils à œuvrer. Ce que nous devons comprendre, c'est comment le Fils a répondu à la volonté du Père, parce que ça nous concerne aussi. Nous n'y voyons pas l'Esprit, mais nous voyons la chair répondre à l'Esprit. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous n'y voyons pas l'Esprit qui conduit, mais nous voyons la personne qui suit la conduite. C'est Esther, vous et moi. Les gens n'ont pas vu Dieu qui est à l'Esprit œuvrant dans frère Branham, mais ils ont vu la chair d'un fils répondant à Dieu œuvrant en lui produisant le vouloir et le faire. Et c'est ce que le monde voit. Ils voient des fils. Ils n'y voient pas Dieu. Mais ils peuvent comprendre Dieu en vous voyant. Ainsi William Branham dit que la puissance conduit à l'amour et l'amour conduit à un don de soi désintéressé et ainsi il ajoute comme le prochain attribut. Il a dit. 6. L'amour est qu'est-ce ce que l'amour? Il est toujours exprimé par le fait de donner. Et le don de soi est la plus grande bénédiction que Dieu peut exprimer par ses fils. Jean 3h16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et qu'est-ce ce que Dieu donne par vous? Eh bien, Néhémie serait-ce pas la même chose qu'il a faite dans son Fils premier-né? N'est-ce pas la vie éternelle? La vie Dieu vivant pour les autres? Et ainsi frère Branham exprime cette puissance de l'amour, quand il dit que le septième attribut d'un citoyen du royaume, Sester, 7, d'aller vers les perdus et, 8, de guérir les malades. De Thessaloniciens, 3 nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela Esther juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Et Thessaloniciens, 3 nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Maintenant, rappelez-vous que le mot de Esther est un acronyme qui signifie appartenir à ou être à ou plus spécifiquement venir de. Par conséquent, nous devrions lire ce verset ainsi, nous rappelant sans cesse l'œuvre qui vient de votre foi, et le travail qui vient de votre charité, et la fermeté qui vient de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Et pour être plus exact, nous devrions le lire ainsi, nous rappelant sans cesse votre travail produit et caractérisé par la foi qui est Esther vôtre, et votre labeur qui est Esther formé et caractérisé par l'amour que vous embrassez, et évidemment manifesté par la patience que vous possédez en raison de l'espérance que vous avez dans notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Ainsi vous voyez comment votre amour façonne et modèle la nature même de l'expression qui vient de votre être et comment Esther un signe évident que vous avez été rendu vivant, et votre amour s'exprime en acte de sacrifice de charité envers les autres, sans tenir compte de soi, et ceci produit alors sur vous une paix qui est Esther caractérisée par la patience dont vous faites preuve, ce qui est Esther un signe évident de votre vive espérance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi nous voyons que cette expression Esther donnée sous forme 7, d'aller vers les perdus et 8, de guérir les malades. Il y a tellement de preuves scripturaires que Dieu souhaite que nous imposons les mains aux malades et pourvoyons aux besoins des nécessiteux, aussi bien spirituellement que physiquement. En fait, frère Branham a dit dans son sermon, le compte à rebours 62-1125 soir P, 54 maintenant, a-t-il dit celui qui croit en moi, les œuvres que je fais il les fera également. Il n'est mis peut pas changer cette décision. Il a dit, ces signes suivront ceux qui croient. Si la vie de Christ est en vous, si la pensée de Christ, alors nous sommes concernés et nous faisons les choses de Christ. Il a dit ces signes qu'il a fait suivront chaque croyant qui croit en lui. Frère Branham dit clairement que Jean 14:12 et Marc 16 sont pour chaque croyant comme nous le voyons dans la citation suivante, question et réponse 59-06-28-172-88. B. Frère Branham, est-ce ce qu'un homme peut faire les œuvres de Christ s'il n'estère pas Christ? Non. Or vous, voulez-vous dire, chère personne, que... Laissez-moi relire cela. Est-ce ce qu'un homme peut faire les œuvres de Christ s'il n'estère pas Christ? C'est ça, s'il n'estère pas Christ? Certainement. Prenons Saint Jean, un instant. Saint Jean, le 14e chapitre et je veux que vous observez bien ceci. Maintenant, si on peut le prendre rapidement, ainsi vous. Je crois que c'est Saint Jean 14:12. Nous le prendrons rapidement, et voyons ce que Jésus en a dit. Très bien, en vérité, je vous le dis, celui, qui qu'il soit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, n'importe quel homme, si cet homme, lui-même, n'est mis peut pas être Christ, mais les œuvres de Christ suivront chaque croyant. Vous voyez, il fera les œuvres de Christ dans n'importe quel homme. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, non pas je ferai, il fera. Lui fera. Non pas, je. Mais celui qui croit en moi et qui a confessé sa foi en moi et qui est mort à lui-même et mon esprit demeure en lui et il devient une partie de moi. Or sa Néhémie fait pas de lui Christ. Ça fait de lui une partie de Christ avec le reste de l'Église. Très bien. Il n'estère pas Christ. Parce que ça serait antichrist. Vous voyez. Ça serait enlevé à Christ. Mille peut-être. Faire les œuvres de Christ. Tout croyant. Très bien. Et finalement, ça nous conduit aux deux derniers attributs d'un citoyen du royaume et nous entendons William Branham ajouter 9, d'accomplir des miracles, 10, de faire de grandes choses. Maintenant, je n'ai pas entré dans ses attributs parce que nous n'avons pas le temps, mais il a nommé ses attributs et caractéristiques du citoyen du royaume. Ainsi nous devrions dire que ce que les bandes disent et n'aimit pas ajouter ou retrancher. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, mars 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.